Vous êtes sur RTL. RTL Midi,
le 12-30,
avec Christophe Paco.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une heure d'infos, de débats et d'opinions, puisque comme tous les jours, vous aurez la parole sur le 32-10 juste après 13h pour réagir au grand thème que nous allons développer dès maintenant avec à la une de l'actualité. Une horloge olympique qui s'arrête aujourd'hui sur le 26 juillet 2024. Oui, dans 2 ans tout pile, les Jeux Olympiques débuteront en France. Êtes-vous impatient? Les Jeux vous font-ils toujours autant rêver? Les chances de médailles, la sécurité ou encore le budget? On en parle avec vous et avec notre grand témoin ce midi dans 5 minutes. Le nageur Florent Manaudou, quadruple médaille olympique, sera notre premier invité d'RTL Midi. De l'espoir dans la lutte contre les incendies, ces méga-feux de plus en plus nombreux qui vous inquiètent. En soutien au Canadair, un avion militaire, l'A400M d'Airbus, pourrait rapidement venir en aide à la flotte habituelle et aux troupes militaires. Xavier Tittelmann, ancien aviateur et consultant aéronautique, sera notre invité dans un quart d'heure. Enfin, un rapport édifiant de l'Ordre des médecins qui, sur l'année 2020, a recensé plus d'un millier d'agressions, vols et harcèlements en tout genre. Si vous êtes soignant et avez connu de telles incivilités, appelez-nous. Standard ouvert, c'est le 3210, vous connaissez l'adresse 3210. Question du jour sur RTL.fr. Êtes-vous impatient de suivre les Jeux Olympiques de Paris en 2024? Vous avez répondu pour l'instant oui à 10% seulement, non à 88%, ne se prononce pas à 2%. On en reparle bien sûr tout à l'heure dans les auditeurs à la parole avec vous en direct. La météo, sans plus tarder, c'est avec vous Claire Delorme, bonjour.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
Visiblement, il fait un peu moins chaud dans le sud-sud-est, plus aucun département en vigilance orange.
Alors certes, mais pour autant, nous restons très largement au-dessus des normales, environ de 3 à 4 degrés. Il fera jusqu'à 35 degrés encore sur l'ensemble du bassin méditerranéen et c'est plutôt embêtant car avec le vent, eh bien, le risque d'incendie est encore maximal. Partout ailleurs, le temps reste calme et majoritairement ensoleillé, avec un petit peu de nuages au nord de la Loire et au pied des Pyrénées, un mercure compris entre 22 et 28 degrés.
On vous retrouve pour un autre point encore plus complet tout à l'heure à 13h, quart de l'homme, s'il vous plaît. Merci d'être fidèle à RTL.
RTL Midi.
Dans 730 jours, nous nous apprêterons donc à vivre nos Jeux Olympiques à Paris, comme dans d'autres régions concernées. On s'habillera pour l'occasion en bleu, blanc, rouge. Et ce matin, bonjour Isabelle Langer.
Bonjour Christophe.
Pour RTL, vous avez fait le tour des sites en Ile-de-France, des potrons minés, si je peux me permettre. Hein, oui. C'est vrai que vous avez beaucoup roulé ce matin. Vous étiez notre fil rouge. Et ce midi, une question nous vient tout de suite vraiment à l'esprit. Est-ce qu'on va être à l'heure? Est-ce qu'on est dans les temps d'ici cette échéance dans 2 ans?
Oui, aucune inquiétude du côté D'accord. de la Solideo, la société de livraison des ouvrages olympiques. On assure être parfaitement dans les temps. Ils ont même comme objectif de pouvoir tout livrer le 31 décembre 2023 avec une petite marge d'erreur jusqu'au printemps. Pour avoir visité le futur village des athlètes en octobre dernier, je peux vous dire que ce matin, j'ai pu constater que les 31 bâtiments qui sont en construction sont déjà bien avancés. D'ailleurs, sur l'un d'eux, il y avait un drapeau qui flottait au vent à une certaine hauteur. On m'a expliqué que les ouvriers le plantaient à chaque fois qu'ils arrivaient au dernier étage d'un immeuble et faisaient même une petite fête pour célébrer ça, c'est plutôt sympa. Le centre aquatique, qui est l'un des 2 équipements sportifs avec le mur d'escalade au Bourget à être construit de façon pérenne à l'occasion des Jeux, lui n'est pas terminé, mais si vous passez par le Stade de France, vous ne pouvez pas le manquer, il est juste en face, il est magistral, sa charpente en bois incurvée est en train d'être posée et la passerelle qui permettra de relier le stade, ce stade au Stade de France. Et justement, il sera installé le 9 août.
Selon un sondage Opinionway, Isabelle, publié par nos confrères aujourd'hui du Parisien, aujourd'hui en France, 47% des personnes sondées se disent indifférentes à la tenue des Jeux. On se souvient pourtant qu'en 2012, à Londres, c'était à peu près la même chose. Le succès était éclatant. À la même question sur le sentiment qu'inspirent les Jeux de Paris, 26% seulement des sondés se disent intéressés, alors que 19 sont inquiets et 7 seulement impatients. 12% souhaitent acheter des places et 6% sont prêts à participer aux Jeux comme bénévoles ou cherchent même un emploi pendant ces Jeux. Et puis pour 75% des personnes interrogées, le budget des Jeux Olympiques de Paris sera très certainement, Isabelle, dépassé, alors que le président Macron, dans l'équipe du jour, annonce qu'il n'y aura pas d'impôt JO. Je cite, les Jeux doivent financer les Jeux. Alors l'État va-t-il tenir ses promesses?
Le président le dit lui-même. Il faut prévoir, bien sûr, un budget un peu plus élevé que prévu en raison de l'inflation, due notamment à la guerre en Ukraine. La rallonge concerne surtout le secteur du bâtiment, plus 150 millions d'euros environ aujourd'hui. Quand on parle de budget, il faut faire la distinction. Il y a d'une part celui de la Solideo, tout ce qui est construction dans lequel l'État est engagé à hauteur de 1,5 milliard sur un budget global désormais de 4,3 milliards. Et puis il y a le budget du comité d'organisation des Jeux qui est aujourd'hui chiffré à 4 milliards, mais qui est financé à 97% par le privé.
Une question qui nous vient, hein, tout simplement à l'esprit, Isabelle. Voilà, est-ce que notre portefeuille va être impacté après les Jeux ? On en parle, bien sûr, tout à l'heure sur le 32-10. Merci à vous, Isabelle Langer, service des sports, spécialiste olympique pour RTL. Et puis, côté sécuritaire, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est venu ce matin expliquer sur RTL son plan d'action pour dans 2 ans et comment sécuriser au mieux une cérémonie d'ouverture différente, bien sûr, des habituels défilés terrestres dans un stade, puisqu'on le sait, le comité olympique a décidé de présenter les 206 délégations sur des barges tout au long de la Seine. Bonjour à vous, Guillaume Chiez.
Bonjour.
Et le ministre, ce matin, avec Olivier Bois, a pointé du doigt un risque en particulier. Il a évoqué une possible attaque de drones.
Oui, c'est un des scénarios sur lequel les forces de sécurité travaillent en vue de ces Jeux Olympiques. Une attaque terroriste venue non pas du sol, mais des airs, comme l'expliquait ce matin le ministre de l'Intérieur.
On reconnaît sur les théâtres d'opération des combats extérieurs des drones qui ont des charges explosives et qui vont sur la foule, donc on se prémunit contre ça. Si j'ose dire, il faut désormais que le ciel soit aussi sûr que la terre.
Et pour sécuriser le ciel, la Direction Générale de l'Armement, qui dépend des armées, va investir 350 millions d'euros pour s'équiper dans la lutte anti-drone, notamment. Le but, c'est de créer une sorte de bouclier aérien avec des brouilleurs d'ondes pour désorienter les drones. Et le mois dernier, l'armée a annoncé qu'elle allait également expérimenter le laser anti-drone, une arme capable, en théorie, d'identifier des mini-drones qui peuvent peser à peine quelques centaines de grammes. Le laser va ensuite suivre et détruire les engins. L'armée et le ministère de l'Intérieur ont encore 2 ans pour tester et développer ce projet afin d'être prêts pour les Jeux 2024.
Merci pour toutes ces précisions, Guillaume Chiez, service police-justice d'RTL. 26 juillet 2022, 26 juillet 2024, 24 mois donc, et à 2 ans très précisément de cette cérémonie d'ouverture, le nageur multimédaillé Florent Manaudou, médaillé d'or en 2012 à Londres, argent en 2016 à Rio, 2021 à Tokyo, va nous rejoindre dans un instant dans RTL Midi.
Des sports avec des grosses chances de médailles pour que les supporters français puissent être nombreux dans les stades pour lancer une belle quinzaine.
On sent que ça approche tout doucement, donc on continue à se préparer, on continue à mettre les bouchées doubles pour être prêt le jour J. Ça sert à rien d'être bon avant, il faut être bon le jour J.
Teddy Riner, être bon le jour J. Auparavant, Tony Estanguet, invité ce matin d'RTL, bien sûr, dans la grande matinale. Invité olympique, on peut le dire, plus que jamais, aujourd'hui d'RTL Midi, c'est notre premier invité aujourd'hui, c'est Florent Manaudou. Bonjour à vous.
Bonjour.
Les Français attendent les Jeux, les champions aussi. Pour vous, c'est quoi ? C'est proche ou c'est très très loin, 2 ans ?
Je pense que c'est les deux, c'est deux à la fois, mais je pense que, vu qu'on en parle depuis un bon paquet d'années maintenant, ça, c'est plus proche que lointain, donc on est tous très excités et c'est vrai que 2 ans, c'est un beau compte à rebours qui commence là.
Sacré compte à rebours, avec tous les soucis liés évidemment à la crise Covid, à l'aspect sécuritaire pour ces Jeux. On sent qu'il y a une volonté présidentielle quand même, cette volonté présidentielle, il l'a affiché Emmanuel Macron hier encore.
C'est génial déjà d'avoir les Jeux en France et que les gens nous supportent. J'ai l'impression qu'il n'y a plus que ça, que dans le sport français. Voilà, on oublie aussi qu'il y a d'autres choses à côté, mais voilà, on a le Tour de France, on a la Coupe du Monde 2023, on a les Jeux à Paris, enfin, on a énormément de choses en France sur ces prochaines années, et on a tout ça de briller, en tout cas, aux Jeux à Paris.
Ouais. Oui, le sport décrété grande cause nationale. C'est vrai qu'il faut que tout le monde se mette au sport quelque part, qu'il y ait un véritable... Ça suscite au moins un véritable élan.
Oui, et puis c'est important, le sport santé, c'est important d'être en forme physique, ne serait-ce que pour la santé. On voit que ça fait du bien, ça fait du bien aussi au moral, au mental, quand on fait du sport. Donc je trouve que c'est un super sujet.
Il y a un petit quelque chose, ça y est, il y a une petite flamme olympique quelque part en vous, et peut-être aussi auprès du public. Vous en parlez beaucoup dans vos camps d'entraînement, par exemple à Antibes.
Oui, les jeunes sont beaucoup axés là-dessus. On en reparle déjà depuis énormément d'années, donc c'est vrai que Paris 2024, c'est un rêve qui se réalise pour beaucoup beaucoup de sportifs. T'es pas sûr au départ, parce que faire les Jeux dans son pays, c'est quand même incroyable. Il y a pas beaucoup de sportifs qui ont la chance de le faire, donc on est tous à fond dedans. On a tous envie de se qualifier déjà dans un premier temps et de briller ensuite.
Et on a le témoin idéal avec vous, hein, Florent Manaudou, parce que personne n'a oublié votre médaille d'or en 2012. Voilà, on est quoi, 10 ans après, aujourd'hui. Il y a eu l'argent, évidemment, en 2016, en 2021. Donc vous avez connu Londres, vous avez connu Rio, vous avez connu Tokyo. Voilà, pour vous, c'est un aboutissement de pouvoir concrétiser encore un rêve olympique à Paris.
Ouais, ça ne me rajeunit pas d'entendre tout ça.
Non, non.
mais exactement, j'avais eu un petit pince... avec marqué Paris 2012 dessus, quand on était ville candidate. Donc moi j'étais super excité, j'allais avoir 21 ans pour ces jeux, donc je me suis dit ah ça va être cool, ça va être maintenant. Puis on les a pas eu, c'était du coup compliqué. Et je me suis dit bah je ferai jamais les jeux dans mon pays. Et finalement on a été recandidat et on a gagné cette fois. Donc j'ai fait beaucoup de jeux olympiques et j'ai bien nagé en tout cas sur les trois premiers. Donc j'espère que je vais finir en apothéose sur celui-là à Paris.
Avec quelle famille hein. On aurait presque pu voir votre sœur aussi peut-être avec vous pour ces derniers jeux à Paris en compétition hein. Sur un petit 50 mètres, voyez ce que je veux dire.
Ouais, alors ma sœur c'est pas une sprinteuse, donc c'est un petit peu plus compliqué, il faut qu'elle s'entraîne un petit peu plus. Et après, moi j'aurais déjà 33 ans, donc ma sœur plus 4, ça fait 37. Il n'y a pas beaucoup de filles, et surtout à 37 ans, qui performent. Donc,
non mais l'image aurait été belle.
L'image aurait été super, hein. Moi si elle veut reprendre, c'est avec grand plaisir.
Depuis que le slogan est arrivé, il y a à peine 24 heures maintenant, ouvrons grand les jeux. On adore, parce que c'est ça, on a envie d'en prendre plein les yeux pour le jeu de mots, bien sûr. Est-ce que vous attendez par exemple à une superbe cérémonie? Ça vous tente, ces barges sur la scène? C'est un vrai beau projet?
Ouais, et puis je trouve que c'est bien de changer. C'est bien d'avoir des choses nouvelles. On a eu l'habitude d'avoir des cérémonies dans un stade assez classique, et je trouve que d'innover, ça fait partie du sport, ça fait partie de la France, et on a énormément de choses en France qui sont très belles, et je trouve que faire ça voilà, sur la scène, pour avoir les monuments, pour les touristes, pour les athlètes aussi. Hein. Je pense que quand on est athlète, c'est quand même cool de pouvoir... pour avoir une sorte de visite privée des monuments parisiens sur la scène, c'est quand même assez incroyable.
Pour conclure, Florent Manonou, vous avez parlé de votre stature, de votre physiologie. Vous feriez un beau porte-drapeau, non?
Ah, moi, je signe, hein, j'aimerais bien. J'ai déjà été candidat en 2021. Je ne sais pas comment seront les sélections des porte-drapeaux, si c'est les candidatures avec les athlètes comme c'était en 2021, si c'est plutôt le CNOSF. Voilà. Vu que c'est en France, peut-être qu'il y aura une petite différence, mais je rêverais de porter le drapeau haut et fort pour les villes de France et pour tous les Français.
Vous venez de parler de drapeau, d'Olympisme. On a l'impression d'y être déjà, quoi. Ce sera dans 2 ans, tout pile, comme on dit plutôt familièrement. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation d'RTL Midi. Merci à vous, Florent Madoudou, et bon entraînement avec les copains, parce qu'il y a de la concurrence, on le sait, chez les jeunes. Il y a une superbe équipe de France de natation, ça va être merveilleux. Avec vous comme chef de file. Merci, Florent.
Merci beaucoup, merci.
Ah, la musique, la magie des jeux, l'attente, le rêve, la passion et son coût aussi. Hein. On en parle avec vous si vous le souhaitez, juste après 13h. Avec les auditeurs en la parole, vous le savez, c'est le 32-10 qu'il vous faut composer. 3, 2, 1, 0. Dans un instant, les médecins en colère face à la recrudescence des actes d'incivilité dans leur cabinet.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi.
Avec Christophe Paco.
À 12h43, plus de 1000 incidents, agressions physiques, verbales, vols recensés. Beaucoup de ces éléments donc, ont été dévoilés ce matin par l'Ordre des médecins. Bonjour à vous, Agathe Landet.
Bonjour à tous.
Plus de 1000 incidents, c'est beaucoup, c'est quoi? C'est un chiffre en hausse?
Oui, il y a eu logiquement plus d'agressions qu'en 2020, où nous avions longtemps été confinés, c'est donc logique. Mais c'est bel et bien une tendance globale qui se dessine, puisque le Conseil de l'Ordre publie ses données depuis 2003. Et résultat, ces agressions ont presque doublé en 20 ans. Dans le détail, en 2021, il y a eu plus de 600 signalements de menaces ou d'injures envers un médecin. Dans 70% des cas, ces agressions étaient verbales. Dans 8% des cas, un cabinet a été vandalisé. Et dans 9% des cas, il y a eu agression physique, allant parfois jusqu'à l'extrême, puisqu'en 2021, il y a eu par exemple 16 cas dans lesquels un médecin a été agressé avec une arme, comme un revolver ou un couteau.
Agression avec arme donc, et menace, vous l'avez dit, harcèlement aussi. Pourtant, peu de médecins portent plainte, Agathe.
Oui, car sur ces plus de 1000 signalements, dans 60% des cas, il n'y a eu ni plainte déposée, ni main courante, explique le docteur Jean-Jacques Avran du Conseil national de l'Ordre des médecins.
On devrait l'écouter, logiquement, mais on ne l'écoute pas pour l'instant. On va essayer de le retrouver d'ici 13h, Agathe, bien sûr. En tout cas, c'est vrai que c'est difficile de témoigner. On a l'impression de porter plainte, hein. Vous le disiez, Agathe, et on a envie peut-être de vous entendre aussi, pourquoi pas, sur le 3210 tout à l'heure. 3210, venez témoigner si vous êtes médecin ou soignant. Merci en tout cas pour ces précisions, Agathe. La variole du singe, dans le domaine de la santé, cette variole qui inquiète toujours. Bonjour à vous, Virginie Garin.
Bonjour Christophe, bonjour à tous.
La France, c'est un des pays les plus touchés en Europe, avec à ce jour pas moins de 1700 cas qui ont été recensés. La moitié d'ailleurs en en Ile-de-France, je ne me trompe pas.
Oui.
D'où l'ouverture à Paris, dès ce matin, dans le 13e arrondissement, d'un vaccinodrome dédié à des populations à risque.
Oui, car le vaccin existe, mais il est très compliqué de trouver un rendez-vous. Encore ce matin, à Paris, j'ai trouvé un seul créneau disponible, et pas avant le 6 septembre. Alors, ça va monter en puissance, promet le ministère de la Santé, avec ce nouveau centre dans le 13e, le centre Edison, qui pourra vacciner 800 personnes par jour. En France, il y en a déjà une bonne centaine. Il faut regarder sur santé.fr.
Il n'y a pas assez de doses. Quel est le problème en France ?
Alors, non, le ministère assure qu'il y a suffisamment de doses, mais c'est le problème, c'est le personnel. Il n'y a pas assez de bras pour vacciner. Donc, les infirmières et les étudiants en médecine vont être appelés en renfort.
Qui peut donc aller se faire vacciner aujourd'hui ? Est-ce que c'est gratuit ?
Alors, c'est gratuit. Cette maladie, dans 98% des cas en France, elle se transmet par relation sexuelle et elle touche essentiellement des homosexuels hommes qui ont de nombreux rapports. Donc, le vaccin leur est conseillé et ces personnes qui ont un comportement à risque seraient 300 000 en France, selon les associations.
Merci pour toutes ces précisions. Virginie Garin, responsable du service qualité de la vie RTL. Un conseil de l'énergie s'est tenu ce matin à Bruxelles avec les ministres concernés pour discuter de la proposition de la Commission européenne sur la réduction de 15% de la consommation de gaz sous 8 mois pour chaque État membre. Bonjour Sophie Jousselin.
Bonjour.
Et cet objectif des 15%, on le sait, est un véritable sujet de tension entre représentants européens. La France en tête hein, d'ailleurs. Est-ce qu'on en sait un peu plus ? Est-ce qu'un accord a été trouvé ce matin ?
Alors oui, on sait qu'il y a un accord dont on n'a pas encore le détail. Mais ce qui était en préparation, c'était l'abandon de ce taux de 15% imposé à chaque État membre au profit d'un menu à la carte en fonction des spécificités énergétiques de chacun. Et c'était d'ailleurs ce que souhaitait la France, car depuis qu'il avait été mis sur la table la semaine dernière, ce plan ne faisait pas l'unanimité. Plusieurs pays ne voulaient pas de ce taux de réduction de 15%. Il y avait d'un côté les pays qui sont peu dépendants du gaz, comme la France, l'Espagne, le Portugal, et Paris avait déclaré qu'il accepterait de réduire sa consommation à la hauteur de ce que la France peut exporter outre-Rhin pour aider l'Allemagne. Or, la taille des gazoducs entre les deux pays ne permet pas à la France d'exporter 15% de son gaz. À l'opposé, il y avait des pays très dépendants, la Hongrie par exemple, qui ne veut pas entendre parler de réduction. Donc chacun devrait selon ses possibilités. Mmh. Et il faut faire vite, car le géant russe Gazprom a annoncé qu'il allait encore diviser par deux dès demain ses exportations de gaz vers l'Europe.
Merci pour toutes ces précisions, Sophie. Jousselin, service étranger d'RTL. Et puis Emmanuel Macron débute aujourd'hui au Cameroun une tournée de 4 jours sur le continent africain. Il y retrouvera ce soir au Cameroun Yannick Noah sur ses terres, la terre de ses ancêtres, puis se rendra ensuite au Bénin, au Sahel ou encore en Guinée-Bissau. Après les paroles, les actes à 12h48 dans RTL Midi, les actes au plus haut sommet de l'État, on prône aujourd'hui, on le rappelle, la sobriété énergétique. Bonjour Thomas Després.
Bonjour.
L'exemplarité même, on l'a bien compris, hein, dans les administrations en matière d'économie d'énergie. Et cette fois, c'est même du concret, puisqu'Elisabeth Borne, Thomas, a envoyé une circulaire.
Oui, 2 pages de recommandations, mais surtout de consignes pour ses ministres. Limiter la clim dans les ministères quand la température dépasse les 26 degrés. Ne pas laisser les appareils en veille, mais aussi éteindre la lumière lorsqu'elle n'est pas nécessaire. Oui, c'est pas Versailles ici. Alors, vous me direz, Christophe, c'est globalement du bon sens. Et vous avez raison, mais l'objectif derrière cette circulaire, c'est aussi un élément de com. Montrer qu'alors qu'Emmanuel Macron a demandé la sobriété aux Français, le gouvernement se l'applique à lui-même. Et dès aujourd'hui, pas question d'attendre un projet de loi. En un mot, vous l'avez dit, l'exemplarité. D'ailleurs, le mot est écrit 3 fois dans la circulaire. Et ces recommandations vaudront également pendant l'hiver. Quand il fera froid, Elisabeth Borne préfère une petite laine au chauffage. Il ne sera autorisé qu'en dessous des 19 degrés. Et la consigne est encore plus évidente. Été comme hiver, avec la clim ou le chauffage, il faut fermer la fenêtre.
Thomas Després, vous attendez 13h30 pour tout couper chez nous, d'accord, dans le studio. Après, les auditeurs ont la parole. Merci à vous, service politique d'RTL. Thomas Després, puis toujours en politique, le député des Alpes-Maritimes, Eric Ciotti. On l'a confirmé ce matin, et l'a confirmé lui-même. Il sera candidat à la présidence des Républicains en décembre prochain. Courte pause, on parle de l'espoir dans la lutte contre les incendies depuis le ciel, avec pourquoi pas un nouvel avion, l'Airbus A400M, qui pourrait être transformé en canadair géant.
RTL Midi.
Christophe Paco. RTL Midi
avec Christophe Paco.
Le sol est rempli de tourbe, donc le feu couve en partie basse et peut ressortir à tout moment. Bah, ça peut durer 2-3 semaines encore. Tant que la chaleur continuera et le vent.
Là où vous venez d'arroser, ça fume encore, quoi. C'est oui, vraiment ouais. Profond.
Ah bah, les sols sont chauds. Hein. C'est un travail de fourmi. Hein.
Le caporal Nicolas, pompier en renfort à Landiras en Gironde, toujours en intervention, on l'a bien compris. Vigilance, prévention, traitement des méga-feux. Airbus a décidé de transformer un de ses avions, son avion militaire, le A300M, en bombardier d'eau. Pour l'instant, des tests ont été réussis. Et pour aller plus loin, aujourd'hui dans RTL Midi, Xavier Titelman est avec nous. Vous êtes ancien aviateur et consultant aéronautique, notamment pour la revue Air et Cosmos. Bonjour, merci d'être avec nous. J'ai une question toute simple. J'ai l'impression qu'on aurait pu y penser avant.
Eh ben, on y a pensé avant et c'est pas le premier avion de la gamme d'Airbus qui peut faire ça. Le premier, c'est le CASA, le CN-235, qui a cette possibilité d'avoir à l'arrière une sorte de grosse bonbonne d'eau qui va pouvoir être dispensée. Simplement, là, on passe à l'échelle au-dessus avec un avion qui aura une capacité de largage qui va dépasser les 20 tonnes. Donc, c'est encore trois fois plus que ce qu'on a avec un Canadair classique.
C'est ça, c'est trois fois plus qu'un Canadair. Il faut beaucoup de temps pour le remplir ?
Le problème, évidemment, c'est que contrairement au Canadair qui peut écoper sur n'importe quel plan d'eau, la 401, il doit retourner sur un aéroport normal. Alors, certes, c'est un avion qui est quand même militaire, donc il peut faire des posées sur des plages avec un système de pompe intérieur. On perd quand même 5 minutes à pomper et le temps de l'atterrissage. Parfois, on peut perdre 10 minutes, un quart d'heure. Donc là, on perd quand même beaucoup de temps par rapport à des aéroports, en plus, qui peuvent être plus loin des incendies que quand on peut aller au plan d'eau juste à côté.
Mais est-ce que c'est plus efficace, naïvement, de larguer plus d'eau d'un coup d'un seul qu'un Canadair de la part de la 400M ?
C'est pas exactement la même chose. Oui, dans l'absolu, on peut larguer plus d'eau, donc c'est plus intéressant. Mais vous avez d'autres avions qui sont encore plus gros. Par exemple, même les Boeing 747, les avions classiques, qui ont été transformés, des avions civils, qui peuvent transporter jusqu'à 75 tonnes d'eau. Donc on arrive à des sommes qui sont très très importantes. L'intérêt de la 401, c'est que c'est un avion militaire, c'est qu'on en a déjà, c'est que ça permettrait d'avoir une flotte militaire plus importante quand on en a besoin, et puis de la transférer au profit de la sécurité civile sur une partie de l'année. Donc à mon avis, ce sera plutôt un renfort de ce qui existe déjà. Peut-être qu'il faudra dans tous les cas remplacer les Canadair par des avions qui écopent. Il y en a d'autres modèles, par exemple le japonais, le US-2, qui est sorti maintenant il y a quelques années. Et du coup, ce serait certainement ces deux flottes qui seraient tout à fait complémentaires avec une efficacité accrue par rapport à ce qu'on a aujourd'hui.
Parce qu'à l'heure où on se parle, les Canadair, il y en avait de moins en moins. On a relancé la construction, on est bien d'accord ?
Les Canadair, alors, il y a c'est des palliatifs, mais en réalité, on n'a plus réellement la possibilité d'en produire parce que les chaînes d'assemblage ont été arrêtées, il y a des pièces de change qui manquent. Même la flotte française, à certains moments, quand je travaillais à la sécurité civile, il y avait eu un train d'atterrissage qui s'était affaissé. En plein été, on avait toute la flotte qui avait été interdite de vol. Il y a des difficultés de disponibilité. En plus, on voit qu'il y a de plus en plus de feux, y compris sur des déploiements dans des pays où ça n'existait pas, comme la Suède l'année dernière. La France a été... elle a été accueillie comme sauveur en Suède parce qu'on a déployé nos avions là-bas. Donc les besoins, ils augmentent beaucoup. Et même si on avait cette flotte très disponible de Canadair, de toute façon, ça ne suffit pas sur le long terme. Il faut vraiment monter en puissance.
C'est intéressant aujourd'hui, c'est un vrai renfort qui arrive grâce à l'armée, grâce à Airbus. Xavier Titelman, aujourd'hui, on se dit qu'on aurait pu éviter de plus longs feux en Gironde s'ils étaient capables de voler tout de suite, parce qu'on sait que c'est des avions en plus qui ne vont voler pas très très haut. Ils volent quoi, 45-50 mètres, c'est ça, hein ?
Ça vole, oui, ça peut voler très très bas. Après, c'est les pilotes de l'armée de l'air, il va falloir quand même les adapter à cette nouvelle mission qui n'est pas du tout la même. Donc certainement qu'il faudra imaginer un travail commun entre les pilotes de la sécurité civile et ceux de l'armée de l'air, parce que cette flotte, elle appartiendra certainement majoritairement à l'armée de l'air. Donc peut-être qu'on aurait des pilotes qui seraient dédiés, peut-être que les pilotes de la sécurité civile travailleraient dans l'armée de l'air une partie de l'année. Il y a beaucoup de questions qui se posent, mais là c'est une certitude, si on avait déjà plus de moyens aujourd'hui, on aurait pu réduire ces feux. Maintenant, le temps de développer, Airbus parle déjà de 2023, c'est très optimiste, mais ce serait vraiment une très très bonne nouvelle si c'était possible. Mais il y a d'autres pays qui achèteraient plus d'A400M. Le dernier, c'est la Malaisie qui a acheté l'A400M il y a à peine quelques mois, qui dit « Si jamais vous développez cette capacité de lutte contre les incendies, on vous en achètera plus ». Donc on sait qu'il y a aussi un marché.
Il y a un marché en plus. Il y a de quoi faire. Merci mille fois pour tous ces éclaircissements. En tout cas, c'est ô combien important dans la lutte contre le feu, les méga-feux. Xavier Titelman, merci d'avoir été l'invité d'RTL Midi. Je rappelle que vous êtes ancien aviateur militaire et consultant aéronautique pour Air Cosmos. Dans un instant, notre immersion, comme tous les jours désormais dans RTL Midi, ce sera avec Hortense Crépin.
RTL Midi. RTL en immersion.
RTL en immersion tout l'été avec les journalistes de la rédaction qui changent de métier le temps d'une journée, à l'image d'Agnès Bonfillon hier, transformée en, c'est vrai, en primatologue, aux côtés des singes, et puis Ophélie Meunier encore, en début d'été, comme serveuse de restaurant. Aujourd'hui, on vous amène sentir et déguster du vin, du bon vin. Bonjour Hortense Crépin.
Bonjour.
Vous avez tenté avec modération, bien sûr, de devenir sommelière le temps d'une journée. Et pour ça, vous avez suivi Éric Baumard. Il est depuis 22 ans le chef sommelier de l'hôtel Georges V à Paris. Et a aussi gagné le prix de vice-meilleur sommelier du monde en 1998.
Oui, mais d'abord opération dégustation chez un producteur de champagne dans la Marne. Testé au milieu des vignes, des bouteilles qui rejoindront peut-être les caves de l'hôtel dans les prochains mois.
Prenez place autour de la table.
Il
Il faut absolument que dans ton métier de sommelier, tu t'organises pour aller régulièrement dans le vignoble pour voir ce qui se passe. Et tu peux t'imaginer que les clients au restaurant le sentent. Ils sentent quand tu es auprès de ce que tu leur proposes. Ils sentent que tu fais ça avec amour et passion.
Le premier vin que nous avons, donc, c'est de la mode brute.
En près d'une heure, je vais donc tester 5 champagnes, tout un rituel auquel je ne connais strictement rien.
Tu le regardes, tu as la robe, l'effervescence, la finesse de la bulle, l'intensité, la brillance.
Et ensuite,
le nez.
Je le sens. Il y a une façon de le sentir,
ouais,
en particulier.
Alors, normalement, tu sens le tourner au départ. Tu incorpores et tu fais tourner, toi, tu fais tourner un petit peu le vin, mm-hmm, pour percevoir toutes les sensations gustatives. T'as quasiment ce que j'appelle, moi, un petit peu la grappe, ça veut dire la fleur. Voilà. Bon, après, on le goûte. Alors, c'est ça le problème. Il faut que tu recraches. Bon, alors.
Je suis obligé de recracher.
Ce matin, il
oui,
fallait.
Mais ça a l'air
non,
très bah,
bon. Si tu recraches pas, on est foutu. Pourquoi cracher? Parce qu'en fin de compte, sinon tu peux pas avec l'alcool, tu serais très vite fatigué.
Donc je prends une gorgée, c'est tout.
Et après, tu craches. Si tu veux durer, faut cracher. Ouais. Parce que le but du jeu, c'est ça, en fin de compte. C'est bien beau d'aller se balader dans les vignes, d'aller goûter des vins constamment, mais il faut quand même quelque part conclure l'essai, ça veut dire les associer sur des plats du chef, les conseiller auprès des clients.
Ok, bon, de temps en temps on peut en prendre une petite goutte quand même. Donc Hortense, vous avez ensuite pris la direction du 5, le restaurant 3 étoiles de l'hôtel.
Et c'est la plus grosse partie du travail du sommelier, conseiller les clients. Ici, la cave de l'hôtel renferme 45 000 bouteilles. Ça représente 2 700 références, toutes consignées dans un livre recouvert de cuir.
Dylan, tu peux amener la carte des vins ?
87 pages. Pauillac, Saint-Émilion, Sauternes, Châteauneuf-du-Pape.
Par région, par classement.
Concrètement, une fois que je sais un peu tout ce qu'on a en cave, il faut aussi que je puisse savoir ce qui peut s'accorder avec.
Il faut bien connaître la cuisine du chef.
Donc les combinaisons, il y en a une infinité. Si par exemple je prends au hasard dans la carte des noix de riz de veau gratinées, quelle est la question que je dois poser si on me dit ça?
Pour ce plat, tu peux suggérer deux couleurs, blanc ou rouge. Ensuite, si tu as choisi un vin blanc, donc tu vas suggérer des régions. Tu n'oublies jamais de tirer un doigt jusqu'au prix, discrètement pour sentir en très peu de temps le budget que le monsieur veut mettre quand même.
Puis en fin d'après-midi, petit passage par le vestiaire. Eric enfile une veste bleue où trône une petite broche en forme de vigne. Et c'est parti pour une soirée aux côtés des clients du très chic restaurant.
Bonjour madame, bonjour monsieur, enchanté.
Bon, j'ai pas eu le temps d'apprendre les 2700 références pour ce soir, donc ça va être un petit peu compliqué pour aller servir tout le monde.
Je vais te mettre à la flotte.
Mais par contre, je vais vous observer.
La côte, tu rigoles, mais l'eau, ça compte. Qui c'est qui prend de la plate, qui c'est qui prend de la gazeuse? En 1, en 2, en 4 ou en 5. Il serait bon qu'une petite formation, genre, c'est une petite formation. Mais bon, j'espère qu'en cette journée, ça vous incite un jour à tenter cette expérience professionnelle.
Alors justement, Hortense, question traditionnelle. Est-ce que cela vous a donné envie de changer de métier?
Totalement. J'ai adoré. Je n'aurais jamais imaginé qu'il faille autant de connaissances. Déguster et conseiller, c'est une chose, mais il faut aussi savoir parler du vin dans des langues étrangères ou avoir des notions de science, entre guillemets, connaître la vigne, la roche. Le mieux, c'est donc de se tourner vers une école hôtelière avec une mention complémentaire en sommellerie, ce qui prend 2 ou 3 ans pour toucher globalement entre 1700 et 2000 euros net à ses débuts dans cette profession en manque de main-d'œuvre.
Merci à vous Hortense Crépin, et cette immersion est à retrouver comme toutes les autres d'ailleurs sur le site RTL.fr, sur l'appli préférée, celle que vous souhaitez, mais moi j'aime bien celle d'RTL. Plus que jamais, vous êtes bien sur RTL. RTL. Et il est 13h.